tous. Et sans plus attendre, place donc à notre première table ronde de la matinée. Elle est consacrée à la prise en charge des cures thermales. J'invite donc à me rejoindre sur scène le docteur Olivier Dubois, Serge Kroener, Didier Monsu, Thierry Thomas. Merci de les accueillir chaleureusement. Messieurs, soyez les bienvenus, prenez place. Merci d'avoir accepté tout d'abord notre invitation. L'objectif donc de cette première table ronde, eh bien, c'est de vous expliquer à vous, les patients, les bénéfices d'une cure thermale, en quoi ça consiste exactement, comment choisir, attention au bruit du micro, comment choisir cette cure thermale, pourquoi choisir un établissement qui dispose d'un programme spécifique dédié aux fibromyalgiques. Attention, je crois que vous avez un petit micro sur un des fauteuils qui fait un petit peu de bruit. Voilà, à vous de vous en saisir. Voilà, ce sera mieux. Donc, on va essayer de vous apporter tous les éléments de réponse sur toutes ces questions liées à la prise en charge des cures thermales en compagnie de nos invités que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, à ma droite, le docteur Olivier Dubois, psychiatre, directeur de clinique psychiatrique, vice-président de la Société française de médecine thermale et directeur des thermes de Saujon. À vos côtés, Serge Kroener, secrétaire général des thermes de Barbotan, qui fait partie du groupe Chaîne Thermale du Soleil. À vos côtés, Didier Monsu, directeur des thermes de Bourbon-Lancy. Et enfin, Thierry Thomas, on l'évoquait tout à l'heure avec Nadine, vous êtes responsable des programmes complémentaires thérapeutiques aux thermes d'Alvar. Et vous êtes co-auteur avec le docteur Curté du livre que je vous recommande chaudement, Fibromyalgie, un programme global pour améliorer votre santé et renouer avec le bien-être. Ce livre est paru aux éditions Thierry Soucard. Mais si on va commencer par une question toute simple, pourquoi faire une cure thermale? Quels en sont les bénéfices? Et quelle en est la différence par rapport à une thalasso? Serge Kroener, peut-être, pour commencer. Alors, vos micros. Si, vous en aviez. Où sont les micros? Relevez-vous, je crois qu'ils étaient sous vos fauteuils. Alors, non, sur vos fauteuils, les petits micros. Voilà, vous en avez un. Mais c'est monsieur Monsu qui le garde pour lui. Voilà, on vous écoute, Serge Kroener. Pourquoi choisir une cure thermale par rapport à une thalasso?
Bon, alors déjà, bonjour à tous. Et puis, merci à mesdames Randon et Baron de nous avoir invités. C'est toujours avec grand plaisir que nous répondons à votre invitation. Et c'est avec grand plaisir qu'on voit le résultat et les attentes de toutes ces personnes. Alors, pourquoi faire une cure thermale? Il faut savoir qu'il y a une centaine de stations thermales en France qui vont pouvoir accueillir des personnes dans une douzaine d'orientations et de soins pour soigner toutes les pathologies. Pour se recentrer un petit peu sur ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les stations thermales avec des orientations en rhumatologie qui vont pouvoir accueillir les patients atteints de fibromyalgie. Et je crois savoir qu'il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine de stations thermales extrêmement spécialisées pour l'accueil en fibromyalgie. Alors, pourquoi choisir une cure thermale? Il est vrai qu'au quotidien, les personnes atteintes de fibromyalgie ont déjà un suivi, je dirais, extrêmement précis, technique, médical, par leur médecin généraliste, leur rhumatologue ou d'autres spécialistes. Mais je pense qu'il est bon, de temps en temps de pouvoir sortir un petit peu de son quotidien pour aller dans un lieu privilégié. Généralement, les stations thermales sont situées dans des petits villages, des cadres de verdure où l'environnement est protégé. Et une cure thermale va durer 3 semaines. Et au cours de ces 3 semaines, vous allez mettre, si je puis dire, le quotidien de côté. La voiture, on la pose, on ne s'en sert plus. On quitte un petit peu les soucis, les tracas du quotidien, le travail, pas le travail, la famille. Et on va véritablement se faire prendre en charge pendant 3 semaines dans une station qui s'occupe de fibromyalgie. Donc, il y a un côté, je dirais, primaire, c'est la station thermale avec tous ses soins d'eau, d'application de boue, de massage, de piscine, de baignoire, de douche. Et puis, parallèlement et en complément de ces activités traditionnelles, si je puis dire, de thermale, il y a tous les compléments que l'on peut offrir pour des personnes atteintes de fibromyalgie.
On y reviendra. Didier Monsu, même question pour vous. Les bénéfices et la différence par rapport à une thalasso?
Alors déjà, pourquoi faire une cure thermale peut-être pour les patients qui souffrent de fibromyalgie? C'était peut-être ça la question que vous posiez d'une façon un petit peu plus particulière. En complément de ce que dit Serge, c'est bien évidemment également parce que c'est un moment, un lieu privilégié où nous pourrons accueillir, où nous pourrons prendre en charge de façon très personnalisée les patients. Je crois que la différence aussi, la question avec la Thalasso, c'est que nous sommes vraiment dans un milieu aussi médical dans lequel il y a des spécialistes, il y a du corps médical, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des kinés, il y a des hydrothérapeutes, il y a du personnel formé, entre autres, à l'éducation thérapeutique du patient fibromyalgique dans ce cas précis qui nous concerne. Je crois que ce que l'on pourrait retenir, c'est une prise en charge globale de la personne qui me paraît essentielle. On ne peut pas bien soigner les gens uniquement dans un paramétrage technique. Il y a incontestablement un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte et qui contribuent largement à ce que les différentes techniques utilisées chez les uns ou chez les autres puissent être au maximum bénéfiques. La différence de la Thalasso, eh bien, c'est aussi le fait que nous utilisons un médicament thermal, qui est l'eau thermale, qui contribue bien évidemment aussi à l'efficacité des soins et à l'efficacité de la prise en charge globale. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je pensais, ce qui me paraissait, en tout cas quant à moi, à Bourbon-Lancy, important pour la prise en charge de patients.
Thierry Thomas, un mot sur l'eau thermale, ce médicament thermal, si j'ose dire. La qualité de l'eau est essentielle, notamment concernant la fibromyalgie.
Oui, bonjour, tout à fait. Effectivement, la différence entre la Thalasso et le thermalisme, à la base, il y a l'eau. Hein, on n'utilise pas du tout la même eau, donc on a soit de l'eau de mer, soit de l'eau thermale. Et effectivement, les vertus de chaque station a une eau particulière, avec des vertus particulières qui sont reconnues par des orientations définies. Et effectivement, certaines eaux sont peut-être un petit peu plus pertinentes pour travailler sur une des problématiques des patients et patientes fibromyalgiques, qui est le rééquilibrage du système nerveux autonome. Parce qu'on sait très bien que c'est un des éléments importants chez vous. Et les eaux soufrées, notamment, et les eaux soufrées à l'état gazeux, sont des eaux qui vont avoir une action, par voie interne, sur le rééquilibrage du système nerveux autonome en remontant le système parasympathique, puisqu'on a deux systèmes, un système qui nous fait accélérer, un système qui nous fait freiner, de manière simple. Et donc, l'eau est quelque chose de très important. Ça, c'est la première chose à vérifier. Et la deuxième chose, effectivement, tout le monde en a parlé, c'est cette prise en charge pluridisciplinaire avec des thérapeutes différents. Bien entendu, il y a l'aspect purement thermal, mais il y a tout l'environnement qui est très important. Et on peut se demander d'ailleurs, quand on va faire une cure pendant 3 semaines, si vous regardez les programmes complémentaires qui vous sont proposés dans chacune des stations et que vous essayez de faire vous-même, chez vous, l'intégralité du programme avec tous les thérapeutes qui interviennent, vous verrez que ça sera vraiment un parcours terrible, parce qu'il va falloir voir le sophrologue, il va falloir voir le nutritionniste, il va falloir voir les personnes qui vont vous travailler sur votre stress, etc., etc. Donc ça vous fait une panoplie vraiment très importante de thérapeutes de qualité que vous allez retrouver pendant 3 semaines et qui vont venir à vous. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà.
Donc des soins de qualité qu'on ne pourrait pas faire ailleurs, finalement, hein, tout est regroupé.
Oui, tout à fait, on pourrait les faire, bien sûr qu'on peut tout faire, mais après, d'un point de vue et financier et d'un point de vue même, je dirais, pratique, ça serait un emploi du temps vraiment très très compliqué à gérer.
Vous nous disiez à l'instant, Thierry Thomas, que l'eau va apporter un mieux-être aux fibromyalgiques. Docteur Dubois, c'est reconnu comme une thérapie très efficace?
Alors, en termes de reconnaissance, on a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites. Alors, on parle de l'hydrothérapie, du thermalisme, on parle d'un ensemble de choses différentes quand même. Ce qu'on sait aujourd'hui, je vais essayer d'être assez bref, mais vous avez une vingtaine d'études internationales publiées, quand je dis une vingtaine, c'est plutôt plus, hein, qui sont des belles études, qui sont très probantes, mais très probantes sur l'efficacité, notamment de la balnéothérapie, sur la douleur, sur l'impotence fonctionnelle, et beaucoup aussi sur les symptômes fonctionnels liés à la fibromyalgie. C'est-à-dire, par exemple, les troubles du sommeil, l'anxiété, la qualité de vie, les aspects mentaux, les éléments dépressifs, qui sont également très rattachés, hein. Vous savez, c'est une pathologie très intriquée entre les côtés rhumatologiques, dont vous parliez tout à l'heure, hein, avec les douleurs, l'impotence fonctionnelle, et puis les aspects psychologiques, hein, parce que vous savez, bah, évidemment, l'impact de la douleur sur le mental est très important, et l'impact du mental sur la douleur est également très important. C'est un cercle vicieux qui est terrible. Et quand même, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je crois qu'il faut ouvrir un peu le débat déjà sur cette double dimension qui est à la fois la prise en charge par la douleur, hein, plus fonctionnelle sur les symptômes et sur les articulations, et la prise en charge plus psychologique qui également est une approche, si vous voulez, complémentaire, et qui, dans les deux cas, l'idée, c'est de rompre avec le processus, le mécanisme d'auto-entretien de la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle est à la fois physique et psychologique. C'est-à-dire que quand vous avez mal, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes obsédé par votre douleur. Ça prend une place psychologique considérable. Et donc, ça devient extrêmement épuisant mentalement. Et plus on est épuisé mentalement, plus la douleur devient extrêmement invalidante. Et on ne sait plus vraiment comment s'en sortir. Et donc, les deux approches ont leur intérêt. L'intérêt de la balnéothérapie, c'est qu'elle attaque évidemment sur le côté physique, mais pas que. Parce que, vous voyez, nous, en psy, on fait des études sur l'anxiété, sur la dépression, sur les symptômes somatoformes. Eh bien, comme par hasard, on a d'excellents résultats. Et je rejoins ce que disait M. Thomas tout à l'heure, qui disait que finalement, eh bien, l'action de la balnéothérapie était une action également par le biais de la surrénale, par le biais du système ACTH et tout le système du stress qui est très très bien connu. Eh bien, on sait que la balnéothérapie et puis aussi le séjour, la rupture, l'éloignement, l'éloignement des facteurs de stress, l'accompagnement médicalisé, etc., sont des facteurs qui vont rentrer dans une meilleure gestion de ce stress. Et la balnéothérapie, alors sur des mécanismes qui ne sont pas clairement identifiés encore, mais a indiscutablement des répercussions sur le système du stress. Et donc, on a là indiscutablement des éléments de preuve indiscutables. Je termine juste sur les éléments de preuve, excusez-moi, je ne veux pas être trop long, mais ça me paraît important quand même d'être un peu plus précis. Donc une vingtaine d'études sur la balnéothérapie qui montrent une efficacité absolument indiscutable sur du moyen terme ou du long terme. C'est des études qui souvent sont des évaluations à 3 mois ou à 6 mois. Elles sont extrêmement claires sur l'efficacité durable et puissante de la balnéothérapie, que ce soit suivant les études, sur la douleur fonctionnelle, sur l'impotence fonctionnelle et sur les aspects psychologiques. On a 4 méta-analyses qui sont sorties entre 2014 et 2016. 3 sont très favorables à la balnéothérapie et ou aux cures thermales. Vous voyez, c'est un peu différent. Balnéothérapie, c'est le soin d'eau, et la cure thermale, c'est l'ensemble de la prise en charge sur 3 semaines. Donc, suivant les endroits, on a étudié plus ou moins l'aspect purement balnéothérapique. D'autres endroits, on a étudié plutôt l'aspect global de la cure thermale. Et donc, là, on a 3 études sur 4 qui sont très probantes sur l'intérêt, l'efficacité sur des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses de plusieurs études réunies qui font des grands nombres de patients, des grandes cohortes de patients, et qui permettent, si vous voulez, d'avoir une analyse beaucoup plus précise, beaucoup plus objective que des études sur 30 ou 40 malades. Et donc là, on a des pertinences très fortes sur des grands nombres de patients. Il y a l'incune qui est un peu plus nuancée sur la balnéothérapie, mais qui dit que la cure thermale, c'est-à-dire l'ensemble de la prise en charge, elle est efficace, le côté multidimensionnel. Et tout ça rejoint les recommandations de l'EULAR. L'EULAR, vous savez, c'est l'organisme européen qui reprend les recommandations que l'on donne pour les malades de la fibromyalgie. L'EULAR est extrêmement clair, il y a 10 recommandations. L'essentiel des 10 recommandations vont dans le sens de ce qui se passe en cure thermale. Grossièrement, vous avez bien sûr les aspects psychologiques, mais vous avez la balnéothérapie qui est très recommandée, qui est comparée à un niveau 2 de médicaments, c'est-à-dire l'équivalent des petits opiacés ou des très bons antalgiques. Donc on a un niveau de recommandation qui est au niveau de ces médicaments sur l'effet de la cure thermale, enfin de la balnéothérapie, pardon. Il y a bien sûr les groupes de patients, l'éducation thérapeutique, les aspects psychothérapiques. Voilà, tous ces éléments-là qu'on fait en cure thermale sont recommandés. Donc on peut penser que la cure thermale est un lieu très organisé, très structuré pour répondre aux recommandations de l'EULAR.
Et le fait qu'une cure dure 3 semaines, là aussi ça comporte un gros avantage ?
Oui, parce que comme toutes ces pathologies, et je crois que c'est toute l'ambiguïté du thermalisme, c'est qu'on sait bien que 3 semaines c'est très long et ça pose des problèmes, c'est une évidence à des tas de patients, mais on sait aussi que la cure thermale c'est quelque chose qui se renforce dans la durée et qu'il faut une certaine durée pour arriver à toucher en profondeur les symptômes. Je vais vous donner un exemple qui m'avait marqué. On a fait venir il y a quelques mois là, à Sojon une équipe d'universitaires du Japon. Dedans, il y avait un professeur, que je ne savais pas qu'il était là d'ailleurs. C'est amusant parce que je présentais nos travaux et je me référais à lui. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, il est là. Alors je lui donne la parole, et ce monsieur, qui est un grand universitaire japonais, qui a fait beaucoup de travaux sur la balnéothérapie, il avait fait une théorie, enfin, qu'il avait démontrée, hein, qui dit que quand on fait une cure thermale ou un soin balnéothérapique, eh bien, il y a une action, il se passe quelque chose de chronobiologique sur 7 jours. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une baignoire, eh bien, 7 jours plus tard, vous avez des conséquences biologiques dans votre physiologique et biologique dans votre corps. Et donc, il nous explique, et ça, c'est ce qu'il avait démontré. Donc, je lui laisse la parole et il m'explique, mais vous savez, docteur Dubois, avec un accent très difficile, évidemment, pour un japonais, mais on a bien compris ce qu'il voulait dire. Ce phénomène-là, il se produit sur une semaine, mais toutes les semaines, ça recommence. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, ça redémarre. Et il dit, le phénomène de chronobiologie se fait à 4 reprises consécutives. Pour lui, hein, il avait très étudié ça, et il considérait qu'il y avait 4 cycles potentiels de modification du circuit biologique interne. Voilà. C'est-à-dire que, grossièrement, la cure idéale, pour lui, c'était 4 semaines. Voilà. Et 4 fois, il fallait faire cette espèce de remaniement corporel, comme un ménage un petit peu interne, comme un lavage interne, qui remet en place le circuit biologique interne. Et il démontrait que sur une semaine, il avait des résultats, sur 2 semaines, les résultats étaient bien supérieurs, sur 3 semaines, encore supérieurs, et sur 4 semaines, il y avait encore des changements. Et après, il dit, finalement, ça ne bouge plus beaucoup. Voilà. Donc, pour lui, c'était 4 semaines la durée idéale de la cure. Donc, vous voyez, à 3 semaines, on n'est pas loin du top niveau.
Encore 2 petites questions, docteur, donc je vous tiens. L'impact de l'efficacité d'une cure thermale par rapport à l'anxiété et la douleur, c'est pas nouveau, hein, ça date d'Hippocrate.
Ah oui, alors là, non, mais c'est très important. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit là, je vais être très, très honnête et très humble, hein, tout ce qu'on dit là, c'est extrêmement connu et reconnu. On n'a rien inventé. Hein. On ne fait que. Aujourd'hui, ce qu'il y a quand même de très bien, c'est qu'on s'est mis à bosser pour démontrer la chose. Vous savez qu'on en est dans l'ère de la démonstration, oui, de la preuve, et ça nous a beaucoup aidé. Et on sait bien que sur des éléments de preuve, on est plus crédible aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et c'est bien qu'on s'y soit mis et on apporte en plus vraiment des éléments d'information précis. Ceci étant, Hippocrate, très clairement. Vous savez ce qu'il avait, Hippocrate, dans son cabinet médical? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez ce qu'il avait dans son cabinet médical?
Autour de la table? Non.
Il n'avait pas un divan, Hippocrate. Il avait une baignoire dans son cabinet médical. Et ses patients anxieux, il les mettait dans la baignoire. Et oui, je vous le dis, mais c'est une vérité. Hein. C'est incroyable. Il avait une baignoire dans son cabinet médical. C'est-à-dire que lui, il considérait que l'hydrothérapie était un élément considérable de la prise en charge médicale. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Mmh. Mais déjà, il avait compris cette dimension.
C'était il y a 450. Hein.
Avant Jésus-Christ.
Oui, c'est ça. Ça ne nous rajeunit pas. Et puis, un dernier mot. Je sais que vous faites partie du board, vous avez fait partie du board scientifique de l'enquête, la fameuse enquête fibromyalgie SOS, dont une partie est consacrée justement aux cures thermales et à leurs bénéfices. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus, un petit résumé à nous faire?
Alors oui, c'est une étude tout à fait passionnante. Moi, j'en ai retiré quelques informations. L'objectif de cette enquête, c'était de faire connaître et reconnaître la fibromyalgie, d'informer les patients. Et cette étude qui a réuni plus de 4 500 patients sur 4 mois de mise en ligne a révélé des informations intéressantes. D'abord, on retrouvait essentiellement des patients qui se plaignaient de migraines pour 40% d'entre eux, de troubles anxieux pour 39%, d'arthrose pour 37%, de dépression pour 36% et de troubles digestifs. Troubles digestifs, vous savez, c'est souvent lié à l'anxiété également, puisque c'est ce qu'on appelle la sphère digestive, c'est un peu considéré comme le deuxième cerveau du corps. Hein. Beaucoup de dépression antérieure à la fibromyalgie, 73% des cas, et beaucoup d'éléments déclencheurs d'ordre psychologique dans le mécanisme de la maladie, et beaucoup d'antécédents traumatiques, d'ailleurs souvent physiques. Le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic de la maladie fait par un médecin était un peu rétréci par rapport à avant, ce qui prouve la bonne action de SOS Fibromyalgie qui agit puissamment, et puisque ça a été réduit à un peu moins de 6 ans, et c'est pas si mal, parce que par exemple sur la bipolarité, nous on est à 8 ans par exemple, hein, pour découvrir une maladie bipolaire on met 8 ans, vous voyez, donc c'est pas si énorme que ça, pour une maladie quand même qui n'est pas toujours identifiée, qui n'est pas toujours reconnue, donc c'est quand même correct, je dirais, mais il y a encore beaucoup mieux à faire, bien évidemment. L'importance de l'annonce du diagnostic est également soulevée par les internautes qui expliquent combien ça les soulage de savoir qu'on sait, qu'on a identifié leur maladie, qu'on l'a reconnue, qu'on la connaît et qu'on peut en parler librement et en toute connaissance de cause. Parmi les symptômes décrits qui répondaient le mieux à la maladie, eh bien, évidemment, le premier, c'est la douleur, pratiquement 100% des patients. La fatigue est en deuxième position avec 98% des patients. Donc, presque tous les patients se plaignent de manière importante de la fatigue, c'est une fatigue pathologique. 90% de troubles du sommeil et 61% de troubles cognitifs, c'est-à-dire, je pense, troubles de la pensée, de troubles de la concentration. 58% ont des périodes de rémission. C'est quand même 6 sur 10 qui ont des périodes où ça va pas mal, où les symptômes sont quand même nettement atténués. Beaucoup de gens se plaignent plus de l'hémicorps gauche que de l'hémicorps droit. Alors ça, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose qui ressort dans l'étude. Pas mal de patients se plaignent de courbatures, de fourmillements et d'engourdissements, à peu près 3/4 des patients. La qualité du sommeil est mauvaise. Alors vous savez que la qualité du sommeil, ça touche tout. Ça touche des réveils nocturnes, ça touche le réveil matinal vraiment difficile avec une lenteur de mise en route et puis une difficulté d'endormissement. À la question, à combien de jours vous êtes-vous senti bien au cours des 7 derniers jours ? Eh bien, ce n'est pas beaucoup, c'est 1,27. Vous voyez ? Mais il y a quand même eu 1,27 jours qui était correct. Ça aide un petit peu à maintenir l'espoir. L'avenir fait très peur, 80-90% la craignent, 7,7% des fibromyalgiques ont fait une tentative de suicide, c'est beaucoup parce que nous, qui travaillons beaucoup sur la bipolarité, qui est une maladie très à risque de suicide, on est à 15%. Vous voyez, donc c'est à peu près la moitié du risque des patients bipolaires, ce qui est quand même considérable, et quand j'ai vu ce chiffre, ça m'a un peu impressionné. La dépression est essentiellement due à quoi chez les fibromyalgiques ? D'abord à la douleur chronique, c'est normal. La douleur est quelque chose d'épuisant qui détruit le mental. Et il faut beaucoup travailler sur la gestion de la douleur dans la fibromyalgie, dans les programmes que nous faisons. Nous avons effectivement énormément cette notion de la prise en charge de la douleur et de la reprise d'espoir par rapport à cette douleur, cette maîtrise de la douleur. La difficulté de la vie quotidienne est également reprise dans 88% des patients dépressifs. Le manque de sommeil, la peur de l'avenir. Les fibromyalgiques ont peur de l'avenir, il faut vraiment s'en soucier. Et puis le manque de reconnaissance également. Alors au niveau de la cure thermale, il y avait quelques questions. 1080, soit 24% répondent que la cure thermale est quelque chose d'important pour eux, notamment chez les plus de 70 ans, qui sont 50% à avoir fait des cures thermales. Dans l'ensemble, la recommandation faite par les patients eux-mêmes, c'est 3 cures thermales. Hein, c'est exactement 2,94 le nombre de cures thermales faites par l'ensemble des patients. Donc on est à peu près, vous voyez, sur des cycles de 3 cures thermales à peu près. L'avis sur la cure thermale, eh bien, 3/4 des répondants lui disent que les soins en cure sont tout à fait ou assez adaptés à leur situation personnelle. Lorsque l'effet thérapeutique obtenu est jugé très bon, il dure en général 6 mois. Ça correspond, nous on fait des études sur les fibromyalgiques, on a des patients fibromyalgiques qu'on suit. Eh bien, nous c'est exactement ça. On a, moi j'ai deux chiffres en tête. Le premier c'est que 95% des patients disent que la cure thermale est aussi efficace ou plus efficace que le médicament. Grossièrement c'est 50-50, c'est-à-dire c'est 47% aussi plus efficace et 48% aussi efficace que le médicament. Voilà, ça c'est l'avis des patients sur l'effet de la cure comparativement au médicament. Et la deuxième information qui est très intéressante sur notre corps de patients fibromyalgiques, c'est vous avez le combien de patients se sentent très améliorés ou encore bien améliorés 3 mois après la fin de la cure. Eh bien, vous avez 45% des patients qui estiment qu'à 3 mois ils sont encore très améliorés ou bien améliorés. Voilà, donc ça correspond exactement au chiffre de l'étude. Et lorsque l'effet est jugé modéré, il dure un peu moins longtemps, ce qui est normal, il dure 3 mois. Les effets de la cure sont notables sur la douleur, pour 73%, la fatigue, 42%, le sommeil, 38%, la réduction médicamenteuse, 43%, et la mobilité, 65%. 45% estiment qu'il y a une plus-value en termes d'efficacité par rapport aux médicaments. Et les plaintes, enfin les motifs de non-accès à la cure, c'est, on les connaît, hein, le coût financier, qui est un peu important, hein, il faut le reconnaître, le manque d'information, mais heureusement, avec nos amis de SOS Fibromyalgie, on n'en manque pas ici, la difficulté à se libérer 3 semaines, qui est une contrainte évidemment importante.
Messieurs, Serge Kroener, Didier Monsu, votre lecture sur ces résultats, ça corrobore un petit peu votre vécu de directeur d'établissement, Serge Kroener.
Ça marche ? Oui.
Oui, on vous entend.
Mais c'est professeur Dubois a extrêmement résumé notre quotidien, aussi bien dans les stations thermales, et tout le ressenti que l'on peut entendre et obtenir de la part de nos patients, de nos curistes. Effectivement, je crois qu'il faut raisonner, on l'évoquait tout à l'heure, dans une approche de prise en charge globale du patient. D'un côté, les soins, des techniques de soins que l'on connaît bien, de la crénothérapie, des applications de boue, des bains, etc. Et puis d'un autre côté, une prise en charge qui sera plus du domaine, je dirais, psychique, où on va faire prendre conscience à la personne qu'elle a besoin de se prendre en charge elle-même, de ne pas trop s'écouter, si je puis dire. Mais j'ai des médecins qui disent « Venez au-devant de nous, parce que nous, on pourra vous apporter des solutions ». Mais si vous venez pas nous expliquer un petit peu votre situation, on pourra pas toujours faire des choses pour vous. Donc à Barbotan, par exemple, on a toute une palette de soins. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu juste après. Et le patient, le curiste, doit puiser à l'intérieur de ça. On parlait de sophrologie, on parle d'hypnose, on parle d'atelier du rire. Il y a tout un ensemble de choses comme ça qui fait que la double prise en charge thermal d'un côté, avec ses soins d'eau que l'on connaît bien depuis quelques milliers d'années, et cette approche, je dirais, beaucoup plus technique et beaucoup plus psychique, complémentaire, qui permettra à la personne de se sentir mieux et surtout d'être un acteur de sa maladie. Ne pas la subir, mais de vivre avec et d'aller au-devant. Voilà, c'est
Didier Monsus sur ses résultats et également sur, M. Kroner a abordé la question, sur la différence de prise en charge entre l'orientation thérapeutique, selon l'orientation thérapeutique de l'établissement, puisque je rappelle que nous avons autour de la table trois établissements répertoriés en rhumato et un en psychosomatique, si je résume. Monsieur Monsus.
Pour parler des résultats que le docteur Olivier Dubois a donnés, oui, je crois que les résultats qui ont été notés pour les patients fibromyalgiques résument également assez bien ce que l'on peut retrouver sur notre clientèle ou patientèle, d'une façon plus générale, curiste, rhumato ou d'autres pathologies. Pour ce qui est de l'accueil des patients, des curistes dans nos stations thermales qui traitent effectivement autour de la table ou de la rhumatologie en première indication ou des maladies psychosomatiques, avant qu'on accueille nos patients dans des baignoires le premier jour ou dans le bureau, je crois que ce qui fait la force déjà, ou le point commun en tous les cas pour les différentes stations, avec des pathologies différentes malgré tout, c'est l'accueil de l'individu, c'est l'accueil humain. Moi, je crois qu'on ne peut pas soigner quelqu'un, on ne peut pas donner un médicament, le médicament thermal dont on parle, si au départ, il n'y a pas l'accueil de l'individu. Je crois que pour moi, c'est essentiel. On pourrait avoir toutes les meilleures techniques du monde, toutes les meilleures installations techniques. S'il n'y a pas le côté humain qui est là pour amplifier le médicament thermal, ça ne pourrait pas marcher. Alors, bien sûr, ce point commun, il est chez nous tous. Et puis ensuite, le côté technique, bien évidemment, la personne n'aura pas le même accueil technique quand on soigne la rhumatologie ou quand on soigne les maladies cardio-artérielles ou quand on soigne les voies respiratoires ou quand on soigne les maladies psychosomatiques. Donc, techniquement, ensuite, il y a bien évidemment les soins qui sont spécifiques, mais je dirais que le point commun, et c'est ce que je voudrais que l'on retienne, l'intérêt des stations thermales par rapport à d'autres thérapeutiques ou par rapport à d'autres établissements, eh bien, c'est, pardonnez-moi de me répéter, mais je crois que c'est ce qui fait notre force, c'est le côté humain. S'il n'y a pas cette empathie, s'il n'y a pas cet amour que nous avons pour nos patients, je crois que le médicament thermal derrière, il ne marche pas. Donc on pourrait avoir tout ce que l'on veut derrière, c'est d'abord, en priorité, cette chose-là qui pour moi est primordiale.
Thierry Thomas, votre lecture des résultats et la question sur la différence de prise en charge selon l'orientation thérapeutique.
Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites justement. Donc, quand on arrive en dernier, c'est un peu compliqué. On va essayer de pas de faire de redites. Donc, effectivement, moi aussi, nous, on constate à peu près les mêmes résultats que l'étude sur les patients que l'on suit. Moi, ce que je souhaite ajouter, c'est que l'intérêt d'une cure thermale, hormis effectivement le caractère humain qui est pour moi primordial, l'accueil humain est quelque chose d'essentiel quand on vit dans une société qui aujourd'hui a tendance à se déshumaniser totalement. Donc il faut vraiment que les hydrothérapeutes travaillent vraiment de manière très, très intime avec les patients. Donc il y a cette chose importante. Et il y a une deuxième chose, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué, c'est qu'on, durant la cure thermale, qui dure quand même 3 semaines, on va faire découvrir, hormis les soins de crénothérapie classiques, on va faire découvrir des techniques, des approches, de nouvelles façons de se soigner. Et surtout, on va essayer d'apprendre aux personnes malades qu'il faut se prendre en charge soi-même. C'est-à-dire qu'il faut, comme vous disiez, être acteur de sa propre maladie. Et sur ces 3 semaines, on a la possibilité, on a le temps, ça c'est important, souvent les médecins n'ont pas le temps. Nous, on a le temps d'apprendre aux gens, de donner des pistes, et surtout de leur dire, voilà, on vous a présenté, durant votre cure, je ne sais pas, 10, 15, 20 pratiques différentes, mais prenez-en une, prenez-en deux, prenez-en trois, et faites les vôtres, et continuez après la cure. Et nous, on est là pour être un peu le starter de devenir acteur de sa propre maladie. Parce qu'il ne faut pas tout attendre en disant, voilà, je vais prendre un cachet, j'ai plus mal. Non, à un moment donné, notamment sur des pathologies aussi complexes et aussi transversales que la fibromyalgie, il faut que le patient, ben, il commence à se prendre en main et à utiliser les techniques qu'on va lui apprendre. Voilà.
Intéressons-nous maintenant, messieurs, au programme fibromyalgie, dispensé dans certaines cures thermales. Pourquoi est-il bon d'abord de choisir ce programme pour un malade, et pourquoi le programme FibroO, avec un jeu de mots, EUX, a été mis en place dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient? Serge Kroner, peut-être, pour commencer.
Alors, effectivement, il faut dissocier et bien comprendre. Il y a, dans la plupart des stations thermales, des programmes, ce que l'on appelle généralement des séjours spécifiques, qui sont adossés à une cure thermale de 18 jours. Comme le disait mon collègue, c'est effectivement un lieu et un moment privilégié pour que la personne puisse découvrir des soins, des prestations, des ateliers qu'elle n'aurait pas pu découvrir dans son environnement habituel. Alors, d'un côté, il y a les séjours spécifiques. Donc là, le patient sera peut-être un petit peu moins acteur. C'est-à-dire qu'on va lui proposer des soins qui vont le détendre, le relaxer, atténuer son stress, atténuer ses douleurs. Je vais en citer quelques-uns comme ça. Ça va être les douches, les applications debout, le travail en piscine. Voilà quelques grandes thématiques. Et parallèlement à cette... en complément, si je puis dire, à ces séjours spécifiques, quelques stations thermales ont décidé d'adhérer et de mettre en place le programme FibroO. Hein, fibre, petite apostrophe, O. O comme eau thermale. Voilà. Là, c'est une approche différente. C'est non pas l'établissement thermal qui va dispenser que des soins, si je puis dire, mais on va apprendre avec le patient à être un acteur, mais un acteur actif, si je puis dire, de sa maladie. Alors, comment ça se déroule, par exemple, lorsque le curiste, le patient... Alors, je dis le curiste, mais je modifie, parce qu'il faut savoir que les programmes d'éducation thérapeutique sont accessibles à tous, même dans une station thermale. C'est le principe même de l'éducation thérapeutique. Si vous n'êtes pas curiste, vous pouvez accéder à un programme d'éducation thérapeutique n'importe où, même dans une station thermale. Donc, lorsque le patient arrive, il y aura déjà un premier bilan de dresser avec un professionnel de santé pour connaître et déterminer un petit peu ce que la personne est en droit d'attendre ou souhaite entendre et attendre de son parcours. Ensuite, il y aura des ateliers bien spécifiques. Par exemple, c'est qu'est-ce que la maladie et mieux comprendre sa maladie. Comment vivre au quotidien avec sa maladie. Ça, ce sont des programmes bien établis, bien mis en place pour que la personne adhère et comprenne ce que c'est que la fibromyalgie. Et puis après, il y a une deuxième partie où le patient va rencontrer un professionnel de santé cette fois-ci qui va déterminer avec lui tout un programme d'activité. Et là, on va rejoindre des activités, je dirais, comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être de la sophrologie, ça peut être un atelier du rire. Je pense que l'atelier du rire, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de se déstresser pendant un moment, d'oublier ses douleurs. On a des ateliers spécialisés, par exemple, en piscine, mais vraiment étudiés. Ce n'est pas les ateliers de mobilisation classique de cure thermale, c'est des ateliers vraiment très spécifiques. Du pilates, par exemple, des ateliers de pilates. et la personne va construire son programme. À l'issue de son séjour, alors j'allais dire thermal, mais qui n'est pas forcément thermal, il y aura la mise en place de ce qu'on appelle un plan d'action personnalisé. C'est-à-dire, on va déterminer, et là je rejoins ce qui avait été dit précédemment, les programmes que la personne se dit « je vais continuer à suivre ces activités, ces programmes, après, quand je vais rentrer chez moi ou dans mon environnement quotidien. Mmh. » Nous les rappelons 3 mois après pour voir si ce plan d'action personnalisé a été suivi. Et généralement, d'après le recul que nous avons, c'est suivi à près de 90%. Parce que, effectivement, comme disait professeur Dubois tout à l'heure, on est en mesure dans les stations thermales de proposer énormément de soins ou d'ateliers ou de prestations diverses. Il n'y en a aucun, je le dis, mais il n'y a aucun qui est bon, je veux dire, pour tout le monde. C'est chacun qui doit aller puiser. Hier, j'étais en conférence, par exemple, nous avions aussi une journée à Barbotan, et il y avait des personnes qui disaient « Est-ce que les cours de tai chi, c'est bon pour moi ?» Le professeur, enfin le docteur qui était là, le docteur Christian Garayz de Toulouse, qui répondait « Mais si ça marche pour vous, n'allez pas chercher ailleurs, continuez dans ce créneau-là. Ce n'est pas la peine d'aller multiplier les... » Nous, ce que nous proposons dans les stations thermales, c'est une palette. Et chacun va pouvoir construire et prendre un
petit peu... Et se faire du sur-mesure.
Et faire du sur-mesure, voilà.
Didier Monsu, pour ce programme Fibro, vous le proposez également ?
Alors effectivement, la question était, y a-t-il des séjours spécifiques Fibro et pourquoi des séjours spécifiques Fibro ? Moi, je voudrais peut-être, avant de revenir sur ce qu'a pu dire Serge, et c'est tout à fait exact au niveau de l'ETP Fibro, malgré tout, moi, j'ai le sentiment que d'avoir à un moment donné mis en place des séjours éducation thérapeutique du patient, qu'on appelle ici ETP Fibro, ça a permis surtout, me semble-t-il, aussi d'avoir de la crédibilité. Quand on sait que ce sont des séjours qui sont agréés par l'Agence régionale de santé, je crois que c'est aussi, à mon avis, vers cette démarche qu'il faut que la profession tende. Si l'on veut avoir aussi une crédibilité auprès des instances publiques, auprès des agences régionales de santé, auprès des patients, il faut que ce soit des programmes qui soient labellisés. Moi, j'ai le sentiment que quand on n'a pas de programme labellisé, chacun fait non pas ce qu'il veut, chacun fait en fonction peut-être des patients qu'il a en face de lui, mais moi, je reste persuadé qu'un programme agréé qui est fait de la même façon à Barbotan, par exemple, qu'à Alvar ou qu'à Bourbon-Lancy, eh bien, ou que dans d'autres stations pour lesquelles il y a cette ETP Fibro, ça me paraît être une bonne chose. Alors, en sachant que pour le séjour ETP Fibro, je rappelle quand même que ce séjour ETP Fibro est en plus de la cure thermale traditionnelle. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a les soins thermaux le matin ou l'après-midi, peu importe, traditionnels, pris en charge par votre caisse d'assurance maladie. Et puis, il y a le forfait ETP Fibro qui est en plus qui, dans lequel il y a effectivement un certain nombre, je dirais, de postes qui ont d'ailleurs été élaborés, avec d'ailleurs Olivier également, au cours de réunions qui étaient extrêmement enrichissantes, où il y avait des associations de patients, des directeurs d'établissements thermaux, avec la double casquette de médecins également. Je crois qu'il y avait eu un travail en amont qui était exceptionnel et qui a montré, me semble-t-il, une crédibilité de la profession thermale qui aujourd'hui est reconnue. Et si aujourd'hui on peut proposer à des patients fibromyalgiques ou à d'autres de la médecine thermale, c'est parce qu'en amont, il y a eu quand même des travaux importants de réaliser. Pour en venir au programme ETP Fibro, effectivement, c'est le patient qui doit être acteur de sa santé. On ne demande pas aux gens de prendre tout, on demande de les choisir avec, et c'est tout l'intérêt de l'ETP Fibro, avec un suivi personnalisé qui a eu lieu en entrée de séjour, qui a lieu en cours de séjour, qui a lieu en fin de séjour et qui a lieu à 3 mois ou à 4 mois. Je crois que ce travail qui est mené, ce travail d'éducation thérapeutique, incontestablement, apporte un plus et une crédibilité à la médecine thermale. Et puis, tu l'as dit, il y a plein d'activités. C'est la gestion de la douleur, c'est la gestion du sommeil, ce sont des ateliers, le yoga du rire, qui effectivement est un peu une nouveauté, qui n'avait d'ailleurs pas été élaboré dans le travail qui avait été fait en amont. Mais on s'était rendu compte que rigoler, c'est tellement bien et que ça fait tellement partie aussi. C'est comme le sourire. Vous savez déjà, quand vous souriez le matin en arrivant, c'est déjà une partie du soin qui est en vous, vous qui êtes en nous. Et puis ce sont des échanges entre vous, entre les patients, entre les médecins, entre les exploitants, entre les directeurs, entre les hydrothérapeutes, entre l'ensemble des personnels qui étaient absolument extraordinaires et enrichissants. Et pour en venir toujours à notre programme, à nos programmes ETP Fibro, ça permet surtout de réunir dans des séjours identifiés, dans des séjours bien listés, un certain nombre de professionnels de santé qui sont ou pour certains professionnels de santé purs ou pour d'autres du personnel qui a eu une formation éducation thérapeutique, hein, entre autres d'ailleurs par l'AFDET, qui est l'Association française de développement d'éducation thérapeutique. Hein. Et je rappelle qu'il avait fait également avec Olivier Dubois, entre autres, un travail en amont pour la mise en place de ces programmes. Donc je crois que la question, allons vers des programmes d'éducation thérapeutique, je crois que c'est aussi d'une façon plus globale, aller et tendre vers des programmes de prévention santé. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui anticiper ou voir ou comprendre les cures thermales s'il n'y a pas, jumelé avec la cure thermale, des programmes de prévention santé. D'ailleurs, aujourd'hui, la cure thermale, pour moi, elle fait partie d'un vaste programme de prévention santé que Thierry a déjà également largement élaboré, comme nous, entre autres, à Bourbon. Je vais passer du coup la parole à Thierry.
Absolument. Votre avis sur l'intérêt de ce programme Fibro?
Moi, je pense que j'en ai déjà parlé, hein, l'intérêt de ce type de programme, de démarche, c'est de pouvoir proposer aussi aux malades, aux patients, de découvrir durant 3 semaines toute une palette de soins qu'il n'aurait peut-être pas l'occasion d'avoir à côté de chez lui. On n'a pas tous, effectivement, un sophrologue à la porte. On n'aurait peut-être pas idée d'aller faire de la méditation ou du yoga du rire. On ne connaît peut-être pas tout ce que peut vous amener la cohérence cardiaque. On n'a pas de nutrithérapeute dans notre village. Voilà. Donc, si vous voulez, ces programmes vont regrouper un peu, chaque station va faire un peu à sa façon, mais ces programmes vont vous permettre de découvrir tout ça et justement de vous amener à être acteur de votre maladie, de faire vos choix. Ces choix sont évolutifs. Moi, c'est ce que j'ai pu constater, hein, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis. Je dois être, moi, à peu près avoir vu 800 à 900 fibromyalgiques dans le cadre du programme Alvar, différent. Hein. Eh bien, ils me disent tous, ben voilà, on a commencé, on a adhéré, on a fait de la sophrologie, c'était bien. Puis, au bout d'un moment, ben, ils ont cheminé, ils sont allés, ils ont continué à travailler après la cure et ils sont allés vers d'autres techniques qu'ils avaient pu découvrir, ça et là. Donc, vraiment, c'est une ouverture. Ces programmes permettent une ouverture vers d'autres soins que le soin purement allopathique qui dans les pathologies de type, je dirais, chronique, comme la fibromyalgie, a atteint ses limites assez rapidement. Et on peut en arriver à des intoxications assez lourdes par de l'allopathie pure et dure. Alors, il ne faut surtout pas jeter l'allopathie. Alors là, je parle devant des médecins. Non, surtout pas. Mais il faut aussi essayer d'avoir d'autres approches. Et ça, c'est vraiment l'atout, après tout ce qui a été dit aussi, des programmes d'éducation thérapeutique.
Docteur Dubois, est-ce que vous avez mis en place au terme de Sojon ce programme?
Oui, alors on a, effectivement, comme disait très justement mon ami Didier Mansus, participé à l'élaboration de ce programme, donc évidemment on a fait. Alors c'est vrai que nous on a fait un choix un peu différent, parce que, je vous explique les choses en vérité.
Allez-y, sans langue de bois.
Sans langue de bois, exactement. On pourrait dire sans langue du bois, d'ailleurs.
Sans langue du bois, hein, je dis. Elle est belle, bravo, bravo.
Excusez-moi.
Je vous l'ai tendu, hein, sur un plateau.
Bien tendu. Simplement, non, c'est vrai que nous, on a choisi un petit peu de faire un peu différemment, pour deux raisons. La première, c'est que, comme on travaille beaucoup avec des universitaires, plutôt que d'aller vers l'ARS qui est très exigeante quand même, il faut le reconnaître, hein, en termes de normes qui nous obligent à avoir des gens formés, reformés, et parfois honnêtement c'est un peu excessif, c'est un peu too much, alors que bon, il faut avoir 2-3 référents dans la station qui formeraient l'ensemble des... Donc ça coûte extrêmement cher, on ne peut pas demander aux patients de payer des sommes faramineuses pour ces prises en charge, et il faut quand même le dire, la sécurité sociale ne prend rien en charge du tout par rapport à ces programmes, donc c'est quand même... Il faut le savoir, c'est un effort de toutes ces stations thermales qui, certes, souvent demandent un peu d'argent aux patients, mais à mon avis, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'on n'est pas remboursé réellement par rapport à la lourdeur de la prise en charge. C'est une qualité qu'on apporte, qui nous semble indispensable à faire, mais qui est quand même faite au détriment un petit peu d'un certain côté de la station, qui met de l'argent dans ces programmes pour le bien des patients. Et je crois qu'il faut quand même avoir conscience que c'est un double effort du patient qui souvent paye un peu, et de la station qui y met aussi la main au portefeuille, et ça c'est très important. Donc nous on a profité un peu de notre situation qui est très médicale, qui est très universitaire. Et donc, moi, j'ai travaillé avec des universitaires. Plus de travailler avec l'ARS, je travaille avec des universitaires donc, qui ont validé nos protocoles et qui les ont écrits et qui les ont fabriqués. Alors, c'est vrai que je me suis servi aussi des protocoles fibro, puisqu'on avait travaillé dessus ensemble. Et on a, nous, essayé de faire un programme qui est un petit peu plus centré sur la gestion de l'anxiété, sur la gestion de la douleur, la perception de la douleur. Lutter contre le processus d'amplification de la douleur. Vous savez, je crois qu'il faut comprendre que l'essentiel de la problématique des fibromyalgiques, c'est la gestion de la douleur et le vécu autour de la douleur. C'est extrêmement démoralisant, c'est extrêmement difficile de vivre une douleur chronique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on n'a pas ça. Et vraiment, on a besoin, dans ces moments-là, d'avoir des bonnes réponses et de pouvoir métaboliser et surtout de relativiser. Et vous voyez, moi je pense que quand on arrive en cure thermale, j'allais dire à Sojon, parce que c'est mon expérience, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des patients qui ont, on leur demande, vous avez combien sur votre estimation sur votre douleur ? Entre 0 et 10 points. Eh bien, ils vous disent souvent, j'ai 7 points, j'ai 8 points, donc ils sont très très mal. C'est vraiment un niveau très handicapant. Et puis, vous les voyez en fin de cure, ils vous disent, j'ai 3 points, j'ai 4 points. Ils ne sont pas guéris, mais ils vont mieux. Ils ont beaucoup mieux. Et vous voyez, quand on est à 7 ou 8, c'est intolérable. Quand on est à 3 ou 4, ça devient tout à fait gérable. Et qu'est-ce qui s'est passé durant la cure ? Eh bien, bien sûr, il y a l'eau, il y a les informations, etc. Mais il y a surtout, je crois, cette espèce de prise de conscience de cette capacité que l'on a nous-mêmes, soi-même, à amplifier sa douleur, parce qu'on est concentré dessus, parce qu'on perd l'espoir, parce qu'on est obsédé par elle, parce qu'on ne voit plus qu'elle, parce qu'on se dit que dans 3 ans, je l'aurai encore, et dans 10 ans, je l'aurai encore. Eh bien, il y a quelque chose qui est très dépressogène et qui est très algique, si vous voulez, voilà, qui amplifie le phénomène de l'algie. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, à la fois, si vous voulez, sur l'explication du processus, sur le côté anxiolytique par rapport à ça, sur le repérage des symptômes qui... Voilà, et puis aussi sur un truc qui est très important, c'est, et ça l'étude le montre bien, l'étude de la fibromyalgie le montre très très bien, c'est que les patients n'ont pas toujours conscience, ce qui est normal, qu'un événement psychologique a déclenché une augmentation du processus de la douleur. Voyez, par exemple, vous avez un stress avec votre enfant qui a un gros problème personnel, et puis 15 jours après, vous avez la douleur qui augmente. Et bien ça, les gens ne se rendent pas compte. Ils voient la douleur qui augmente, ils voient les soucis qui augmentent, ils voient que tout augmente à la fois, et donc leur pessimisme augmente. Et c'est le pessimisme global. Et cette vision globale de leur perception de la situation est aggravée, et la douleur est également aggravée. Vous voyez, tout ça, ça va ensemble. Et lorsqu'on les fait prendre conscience qu'il y a une causalité, qu'il y a un lien de cause à effet, etc., et lorsqu'on les fait rentrer un peu dans cette logique, eh bien, quand même, il est assez notable de voir que les choses s'améliorent très spectaculairement. Alors, évidemment, les ateliers sont très importants pour ça, quelle que soit la forme, parce qu'effectivement, d'abord, il y a, comme vous l'avez tous dit, il y a des gens qui sont plus sensibles à des formes qu'à d'autres. Mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier dans ces ateliers, et qui est très important, et ça, je tiens aussi à le préciser, c'est qu'il y a un effet qui est très important, qui est l'effet groupe. Voyez, c'est les gens sont en groupe, ils parlent entre eux, ils se voient. Il y en a toujours dans les groupes 2-3 qui vont mieux, ou qui ont compris comment ça fonctionnait, et qui vont être témoins vis-à-vis des autres de l'amélioration qu'ils ont obtenue. Et donc cet effet groupe, il est très important. Cet effet groupe, on le retrouve aussi au niveau des stations thermales. Quand vous avez 300 curistes qui sont fibromyalgiques, ou même s'il n'y en a que 30 à la fois, ils vont se retrouver, hein, vous inquiétez pas, ils vont finir par se retrouver assez rapidement. Et puis, parce qu'ils ont des symptômes qui font qu'ils se reconnaissent, et ils ont les mêmes plaintes, les mêmes sentiments, et bon, bref, ils vont avoir les mêmes réactions émotionnelles dans les soins, et bien comme par hasard ils vont se retrouver, ils vont commencer à faire un petit peu groupe, et comme par hasard, et bien ils vont se faire du bien les uns avec les autres. Il y a un effet institutionnel, si vous voulez, qu'on retrouve chez les hydrothérapeutes, chez les professionnels de santé qui sont dans la station, mais aussi chez les patients entre eux. Et bien sûr, quand c'est coordonné dans le cadre d'un atelier récurrent avec des spécialistes, évidemment, l'effet groupe est encore bien renforcé.
J'ai encore une dernière question à vous poser. Merci d'être bref. Et préparez vos questions, affûtez vos questions et donnez vos questions papier à Ghislaine et Nadine qui sont au premier rang. N'hésitez pas à vous manifester. On fera évidemment un tour de salle question micro, évidemment. Juste une dernière question. Vous avez évoqué le sujet, docteur Dubois, l'aspect du coût de ces soins complémentaires. Pourquoi ces soins complémentaires ne sont pas pris ou mal pris en charge par la Sécu? Et pourquoi y a-t-il une différence de prix selon les établissements? Question à 1 million d'euros pour vous, Serge Kroner, pour commencer. Soyez rapide.
Alors, moi, si je voulais faire une petite pointe d'humour, je dirais on constate que lorsqu'une personne fait une cure thermale de base, elle va avoir moins d'arrêts de travail, moins d'actes de kinésithérapie, retrouve son sommeil, une gestion moins de douleur, une qualité de vie améliorée, je dirais, mais on devrait imposer une cure thermale à beaucoup, beaucoup de nos concitoyens. La qualité de vie pour tous ces gens-là s'en trouverait améliorée. Et donc je bascule cette fois-ci sur le côté, je dirais, financier. Effectivement, quand on voit tout ce que peut coûter hein, ces problèmes que je viens d'évoquer, et qu'on l'associe, je dirais, au problème fibromyalgique, ben effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les arcanes de la sécurité sociale de dire on va prendre en charge. Alors, à titre préventif des cures thermales, on en est quand même loin. Et dès qu'une détection d'une maladie chronique, hein, on parle souvent aussi de polyarthrite, enfin de spondylarthrite, de fibromyalgie est détectée, eh bien non, il n'y a pas de prise en charge réelle. Et je rejoins le professeur Dubois et mes collègues, et je pense qu'on sera à peu près dans le même état d'esprit. On est à peu près entre un quart et un tiers du coût réel d'une prise en charge fibromyalgique. Je ne parle pas de la cure thermale, hein, de la cure spécifique fibromyalgique, un quart que l'on demande, entre guillemets, d'être supporté par le patient. Et trois quarts restants sont pour la station thermale. Alors, peut-être qu'il y a aussi des différences, peut-être dans certaines approches et certains programmes qui peuvent justifier un prix ou un tarif légèrement différent, mais il faut considérer qu'on est toujours dans ce un tiers, ou un quart et trois quarts à la charge de l'établissement pour justement apparaître, comme on le disait tout à l'heure, partie prenante dans le fameux service médical rendu.
Voilà. Didier Monsu, même question pour vous.
Alors déjà, la cure thermale, bien évidemment, elle est prise en charge par la caisse d'assurance maladie. Hein. Le médecin, votre médecin traitant qui vous prescrit la cure, on ne peut plus remettre en cause. Je crois que la profession... Et pardon, Olivier, tu as largement contribué également à ce que le service médical rendu aujourd'hui soit reconnu et rende, je dirais, la cure thermale incontestable et efficace, économique et réductrice, effectivement, de dépenses pour la collectivité. Ça, c'est un fait établi. Je crois que si l'on voulait aussi que les séjours ETP fibro, les séjours fibromyalgiques, puissent être pris en compte par les caisses d'assurance maladie, pour être pris en charge et donc remboursé, je crois que à nous, peut-être aussi professionnels, à nous, établissements, à nous qui sommes au quotidien avec les patients, peut-être avec vous également, et bien faisons remonter les informations, faisons remonter les résultats, faisons remonter que ces cures thermales spéciales fibro ou ETP fibro sont efficaces, apportent un confort de vie, apportent une baisse de la consommation médicamenteuse, apportent une baisse de la consommation médicale. Et quand on se sera tous réunis pour dire regardez l'efficacité des stations thermales, regardez l'efficacité des soins que nous proposons aux fibreux, ben peut-être que ça pourrait être pris en charge. Et je crois que c'est un travail que nous devons mener. Mais pour ça, j'ai le sentiment qu'il faut qu'il y ait une certaine uniformité, comme ça l'est sur des forfaits pris en charge par la Sécu avec une nomenclature bien... Mais ça, c'est, je rentre peut-être dans une polémique. Quant au tarif des séjours dont parle le Serge, effectivement, je crois que c'est largement inférieur au coût réel. Quand vous payez un séjour fibro, c'est moitié prix peut-être, voire 4 fois moins, par exemple, que le coût réel du... Seulement, nous, par exemple, à Bourbon-Lancy, nous avons pris le parti extrêmement clair de nous dire nous souhaitons à ce que ces soins puissent être disponibles ou puissent être agréé au plus grand nombre de patients. Donc, nous avons choisi des tarifs extrêmement attractifs, mais qui, effectivement, ne correspondent pas à la réalité du coût du soin.
Thierry Thomas, rapidement.
Oui, juste déjà pour commencer, jeter un petit pavé dans la mare, la fibromyalgie n'est pas une maladie, malheureusement. Donc déjà, ça, c'est...
Pour la sécu.
Oui, bah oui, tout à fait. Donc ça, je pense qu'on y reviendra. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. L'Assemblée nationale a sorti un rapport très positif pour évoluer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, la fibromyalgie, bah oui, rembourser quoi ? C'est pas une maladie, donc c'est un syndrome. Donc déjà, il y a ce premier point. Deuxième point, dans tous les protocoles que nous, toutes les stations proposent, généralement, je dirais à 80%, peut-être même 90%, les activités, les ateliers, les intervenants proposés ne sont pas des intervenants codifiés sécurité sociale, hein, qui ne sont pas pris en charge. Donc déjà, ça met des petits cailloux dans la possibilité d'être pris en charge pour les compléments. Après, la différence de prix, effectivement, la différence de prix, elle est liée au choix des stations, comme vous disiez, les choix de répercuter ou non le coût complet ou non complet des compléments de cure et de la densité du programme proposé. Deux programmes ne sont pas les mêmes, il faut les regarder. Il y a plus ou moins d'ateliers, donc c'est plus ou moins cher. Voilà, donc je recoupe tout ce qui a été dit.
Et on boucle la boucle avec vous, docteur, rapidement.
Oui, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est vrai.
Si ce n'est nous renvoyer vers le ministère de la Santé.
Voilà, ce que j'avais à dire, c'est que mon voisin de droite, M. Kroner, a très bien parlé. Et je pense qu'il faut absolument que Emmanuel Macron le prenne comme ministre de la Santé. Et je pense qu'on réglera notre problème.
Soyons en marche avec la fibromyalgie. Eh oui, espérons qu'il nous entendra. Allez, on ouvre les questions avec la salle, s'il vous plaît. La lumière se fait. Qui souhaite réagir au micro? Oui. Alors attendez.